Poker Menteur.
Poker Menteur. Avec Geneviève Huglot dans le rôle de Geneviève Huglot.
Jean-François Reynaud dans le rôle de Jean-François Reynaud.
Et Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Vous écoutez Poker Menteur sur Radio Calade, votre radio préférée, votre émission mensuelle préférée. L'émission de ce mois-ci est consacrée à la guerre d'Algérie. Émission historique, on sort un petit peu de l'actualité, c'est un peu la tradition régulièrement sur Poker Menteur. Mais préalablement, nos bonnes vieilles habitudes, nous allons écouter la chronique géopolitique de Jean-François.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Jeff.
Bonsoir Geneviève.
Bon alors, du coup, de quoi parlons-nous ce soir ?
On va vraiment parler d'actualité puisqu'on va parler de ce qui se passe au Soudan actuellement et essayer de comprendre ce qui se passe. Effectivement, parce que depuis le samedi 15 avril, le Soudan est en proie à d'intenses combats qui ont déjà fait plus de 420 morts, pardon, c'est déjà beaucoup, et 3700 blessés, selon l'OMS. En effet, une lutte pour le pouvoir entre deux chefs militaires rivaux a dégénéré en guerre meurtrière pour la population et dévastatrice pour ce pays de 45 millions d'habitants, où la faim touche plus d'un tiers de la population. Les appels internationaux pour l'arrêt des combats se multiplient, mais sans effet sur les belligérants.
Ok, donc un bilan déjà très réjouissant. Et pourquoi finalement le Soudan connaît une telle guerre civile ?
Parce qu'il connaît deux forces militaires puissantes qui s'opposent dans des combats violents. Chaque armée est dirigée par des généraux voulant rester ou accéder au pouvoir. Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière soudanaise, affronte son adjoint finalement, Mohamed Hamdan Dalgo, surnommé Emeti, chef des forces de soutien rapide, une formation paramilitaire. Les deux chefs militaires qui s'affrontent aujourd'hui avaient mené ensemble un coup d'État en octobre 2021 pour évincer les civils du pouvoir. Ils avaient ainsi mis un coup d'arrêt au processus de transition entamé en 2019 à la suite d'une révolution populaire qui a renversé le chef d'État Omar el-Béchir. C'est d'ailleurs à la veille d'un nouveau transfert de pouvoir prévu vers les civils que la confrontation a éclaté entre les deux généraux. Car le général al-Burhan a exiger l'intégration des forces de soutien rapide, les FSR, dans l'armée, ce que refuse Emeti. Tous deux sont opposés à passer la main à un pouvoir civil et montrent une égale indifférence au sort de la population civile soudanaise, victime de leur rivalité meurtrière. Comme à celui de leur pays, d'ailleurs, parmi les plus pauvres du monde.
Ok, donc au-delà de l'indifférence, qu'en est-il ? Quel est le sort de ces civils ?
Les civils soudanais se trouvent pris au piège entre les deux groupes armés rivaux, particulièrement à Khartoum, les habitants de Khartoum, parce que c'est là où se déroule l'essentiel des combats. Alors, bombardements aériens, assauts à l'arme lourde, touchent les immeubles d'habitation et n'épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles de la capitale. Une dizaine d'hôpitaux sont hors service et une trentaine de centres de soins ont été endommagés. Depuis le début des affrontements samedi, les habitants sont privés la plupart du temps d'électricité et d'eau courante et ont le plus grand mal à pouvoir s'approvisionner. Des groupes de familles tentent de fuir la capitale, profitant de brèves accalmies dans les combats pour faire le déplacement. Néanmoins, même à l'occasion de l'Aïd, le week-end dernier, les combats ont perduré.
Ok, donc pas de solution a priori en interne. Et les puissances régionales et internationales, dans cette situation, elles peuvent faire quelque chose ?
Elles ont tenté. 15 ambassades occidentales, notamment à Khartoum, dont celle des États-Unis et de l'Union européenne, ont rapidement appelé les belligérants à cesser les hostilités. Sans effet, malheureusement. D'ailleurs, comme l'a fait la France, les ressortissants de ces pays ont été évacués d'urgence. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a quant à lui condamné les attaques contre des diplomates de l'Union européenne ou des États-Unis, puis il a demandé un cessez-le-feu qu'il a enfin obtenu ce lundi, mais pour 72 heures seulement. Cette trêve doit favoriser l'ouverture de couloirs humanitaires et la facilitation du mouvement des civils. Blinken réclame également la reprise du processus démocratique avec les forces civiles. De son côté, l'ONU s'inquiète de la situation sécuritaire et humanitaire. Elle a tenté de jouer le médiateur entre les deux parties, mais sans succès. Aujourd'hui, la communauté internationale, qui a déjà coupé son aide au Soudan lors du putsch, ne semble plus à la manœuvre, dépassée par les poids lourds africains et arabes qui ont tissé des liens politiques, économiques et diplomatiques avec les deux chefs militaires ces dernières années. Ainsi, le chef de l'armée, le général Al-Burkhan, est passé par l'académie militaire égyptienne et peut compter sur le soutien de l'ex-maréchal Abdel Fattah al-Sissi, sorti de la même école. Quant aux FSR de Hemeti, elles sont intervenues au Yémen aux côtés des Saoudiens et des Émiratis, mais aussi en Libye pour le compte des Émirats Arabes Unis. Elles ont en outre collaboré de près avec les mercenaires russes de Wagner, encore eux, appelés à protéger les mines d'or au Soudan, qui est par ailleurs le troisième producteur mondial de ce précieux métal.
Ok. Donc à court terme, est-ce qu'on peut imaginer une issue positive ?
Ça paraît compliqué quand même, compte tenu de la puissance de leurs armées respectives. Et il est difficile d'entrevoir une victoire militaire de l'un ou de l'autre des chefs de guerre qui s'affrontent. Les deux sont engagés dans un combat existentiel. Le chef de l'armée dit vouloir poursuivre le combat jusqu'à la défaite des forces rebelles, tandis que ces dernières affirment se battre en vue de contrôler totalement l'armée. La confrontation pourrait donc durer des mois, voire des années, selon certains experts. Toutefois, les pressions extérieures pourraient amener les belligérants à suspendre les affrontements pour négocier. D'autant que le Soudan a besoin des pays occidentaux quand même pour lever les sanctions qui frappent son économie et obtenir une aide financière de la part des institutions internationales. Une coordination internationale avec les forces régionales qui ont de l'influence sur l'une ou l'autre des parties, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite notamment, pourrait peser sur les deux chefs militaires. Mais il s'agirait plus d'un jet de la situation que d'une véritable solution du conflit au Soudan. Les chances d'une relance d'un processus de transition et de dialogue pour le rétablissement d'un pouvoir civil dans le pays semblent très lointaines. Au grand dam de la grande majorité des Soudanais, encore les victimes de tout cela.
Ok, eh bien merci pour ce focus précis.
De rien.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. C'est notre émission mensuelle consacrée à la guerre d'Algérie. Nous venons d'entendre la chronique géopolitique de Jean-François. Mais venons à notre sujet principal, donc la guerre d'Algérie. Et question à mes comparses qui sont avec moi. Geneviève, bonjour.
Bonsoir Patrick.
Jeff, bonjour.
Bonjour Patrick.
Pour quelle raison parle-t-on de la guerre d'Algérie ?
Eh bien écoute Patrick, ça démarre très très bien cette émission, parce qu'en fait ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va parler de la guerre d'Algérie, mais pas vraiment de la guerre d'Algérie.
Ah, très bien.
Super, hein ? Voilà, c'est bon, j'ai perdu tout le monde.
On n'y comprend rien.
L'idée, c'est plutôt que justement, quand on a démarré un petit peu notre projet, je suis allée faire un peu un tour sur Internet, et que vois-je ? Eh bien qu'au final, quand on fait une requête précise sur les causes de la guerre d'Algérie ou la torture, etc., en fait, on ne tombe que sur des pages de cours destinées à des enseignants.
Mmh.
Voilà. Donc, c'est quand même un premier constat, c'est que cette guerre n'est pas qu'un sujet scolaire. Bien au contraire, elle recouvre des réalités culturelles, des récits, des témoignages personnels et surtout beaucoup de blessures.
D'accord.
Et donc, on va essayer d'aborder la question, mais pas uniquement sur le plan chronologique, sur le plan scolaire.
Événementiel,
d'accord.
C'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici, ouais, effectivement.
D'accord.
Voilà. On va plutôt se centrer sur l'avant, les causes.
Ouais.
Et puis
les épisodes de la torture, qui sont quand même des épisodes douloureux pour les Algériens et pour les Français.
Et pour les Français.
D'accord.
En terminant par
les mémoires de la guerre d'Algérie.
Voilà.
Qui sont pluriels.
D'accord, donc exactement. Une approche plus précise sur des thématiques qui sont un peu délaissés habituellement. Ok, bon, bah on y comprend mieux, très bien. Bah, vous savez quoi, messieurs, dames, les historiens, je vais vous laisser la parole. On va donner la parole en premier à Geneviève, honneur aux dames. Tu vas nous parler des causes de la guerre d'Algérie.
Exactement.
Si j'ai bien compris.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, à l'instant, pour être précise. Pas de grand 1, pas de grand 2, pas de transition. On est plutôt sur la compréhension de cet engrenage sanglant de la guerre d'Algérie, qui exige de revenir à l'origine. Voilà. Donc, Que peut-on dire ? Eh bien que cette conquête de l'Algérie n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. 1830, prise rapide des principales villes, donc on pourrait se dire que voilà, c'est bon, en quelques semaines tout est terminé. Ben non, en fait c'est le début, au contraire, des hostilités sur tout un territoire qui a mis près de 40 ans à capituler devant les forces françaises. Donc une conquête longue, sanglante, qui a marqué durablement les familles algériennes, et qui reste peu connu aujourd'hui dans notre société française, puisqu'on est surtout habitué finalement au récit sur la mission civilisatrice de la France, le fardeau de l'homme blanc, comme le disait le maréchal Lyautey. Et donc, au final, on a vraiment deux imaginaires qui s'opposent. à l'histoire imaginée d'une Algérie française qui retrouve ses racines dans l'histoire de l'Empire romain, chrétien, qui renoue avec la Méditerranée, par donc le biais de cette colonisation. Et les Algériens, au contraire, opposent plutôt un récit national qui trouve sa force dans les dissidences berbères, ancestrales, l'émergence du nationalisme arabe et surtout l'islam, qui est un refuge face aux invasions successives. On pourrait presque dire les invasions barbares européennes.
Mmh, oui, tout à fait. On voit donc qu'il y a deux imaginaires hein, qui s'entrechoquent. L'imaginaire ancien quand même français, qui est quand même ancien, daté heureusement, d'une mission civilisatrice, blablabla. Et puis l'imaginaire algérien qui est des envahisseurs qui sont venus, nous ont fracassés.
C'est ça. Et du coup, ils sont véritablement dans une construction tout au long de cette colonisation, de cette identité algérienne qui finalement n'existait pas. Pas de façon aussi claire avant 1830. Donc ça, historiquement, je trouve que c'est intéressant.
Oui, elle s'est construite dans l'oppression.
Exactement. Et ça peut expliquer, en tout cas, la violence du conflit qui se prépare. Donc, un premier point sur ce double imaginaire qui s'affronte. Et cette société qui se met en place, évidemment, on s'en doute, c'est une société très inégalitaire. Inégalitaire déjà par la démographie. 1 million d'Européens présents, 8 millions d'indigènes, évidemment j'ouvre les guillemets cette appellation.
C'était le terme de l'époque.
Exactement. Déséquilibre aussi en termes de niveau de vie. Donc les Français d'Algérie ont un niveau bien supérieur à celui des musulmans. Mais attention, là aussi on a tendance un petit peu à être dans la caricature. Il faut s'imaginer que c'est les trois quarts des Français qui vivent sur ce territoire appartiennent plutôt aux classes moyennes ou populaires. On n'est pas face à des grandes
noblesses. Oui, c'est pas les grands propriétaires.
Voilà. Ils ont un niveau de vie moindre qu'en métropole, effectivement.
D'accord.
Globalement.
Voilà. Autre déséquilibre, autre facteur d'inégalité, le faible taux de scolarisation des enfants musulmans.
Bien sûr. Ouais.
À peine 20% contre 100% des jeunes Français. Donc ça aussi, ça contribue à générer une forme de mécontentement bien compréhensible. Et puis, évidemment, l'accès au travail, le taux de chômage qui est très élevé pour la population musulmane et qui se traduit par une misère très importante, notamment dans les villes.
D'accord.
Voilà, donc une société hétérogène. Alors, est-ce que ça suffit pour fomenter un conflit d'une violence extrême ? Ben, pas uniquement, on s'en doute. L'inégalité la plus criante concerne les droits.
Voilà. D'accord.
Donc, je vais essayer d'être claire et précise en même temps. Dès le Second Empire, donc les années 1850, les habitants autochtones, c'est-à-dire ceux qui vivent sur ce territoire avant l'arrivée des Français, pensent que cette colonisation va leur permettre d'accéder à de nouveaux droits, et notamment à la nationalité française. Dix ans plus tard, face à ce flou juridique, puisqu'on commence à parler d'autochtones, on commence à parler de Français d'Algérie, enfin en clair, on ne sait pas trop comment appeler les gens. Face à ce flou, la loi va assez rapidement préciser que l'indigène musulman est français, mais il continuera à être régi par la loi musulmane. Donc en clair, vous êtes français, mais pas vraiment.
Français de seconde zone, quoi.
Exactement, c'est un très bon résumé. Donc évidemment, s'il le souhaite, il peut être admis dans cette nationalité, jouir de droits et être pleinement citoyen, mais ça se mérite.
D'accord.
Ça se mérite, c'est-à-dire que cette naturalisation n'est possible que si il y a des faits d'honneur, si on marque une volonté ostensible de vouloir accéder à cette nationalité française.
D'accord.
Dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? C'est surtout au moment de la Première Guerre mondiale qu'il va y avoir une ouverture d'une accession à la nationalité française.
D'accord.
Voilà. Donc, en clair, on peut dire que l'impôt du sang va permettre à un grand nombre d'accéder à cette nationalité, mais pas pour autant à une égalité de droit.
Okay. Très bien.
Voilà. Alors, on a parlé des musulmans. Je fais juste une toute petite parenthèse sur les citoyens juifs qui étaient aussi sur ce territoire et qui étaient importants aussi en nombre. Le cas de figure est un peu différent, c'est-à-dire que 100% des Juifs algériens vont accéder à la nationalité française. Pourquoi ? Tout simplement parce que, de leur part, il y a une véritable volonté d'accéder à cette nationalité. Alors qu'assez rapidement, les élites algériennes vont être dans une volonté de marquer une différence entre Algériens et Français, et qu'ils ne souhaitent pas il va y avoir des pétitions qui vont être ouvertes, justement. Ils ne souhaitent pas accéder à cette nationalité.
C'était dans quelles années, à peu près, là, dans ce que tu décris, sur ces réticences ?
Eh bien, début du XXe siècle.
D'accord, d'accord. Donc, c'est sans doute concomitant avec la naissance de l'idée de nation, quelque part, et d'indépendance,
qui fait son chemin. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, que je n'avais pas forcément en tête. Mm-hmm. Mais clairement, de la part des élites algériennes, il y a cette bascule qui va se faire petit à petit ensuite dans les mentalités d'une population plus large, que finalement, on ne veut pas être français, on veut juste être libre.
D'accord. Mmh. Ok, très bien. Dis-nous, on n'en a pas terminé avec les causes, non ? Tu as encore des choses à nous faire découvrir ?
Oui, tout plein. Non, mais il ne faut pas me faire des coups comme ça, Patrick.
Je ne sais pas. Hein.
Donc cette inégalité, elle repose aussi sur la mise en place d'un code de loi qui va s'appeler le code de l'indigénat et qui va du coup ancrer l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure comme un véritable terme juridique.
Ouais.
On s'en doute, ce code de l'indigénat, ce n'est pas un code qui permet liberté, égalité, fraternité. Hein. Mmh. Ça veut juste dire que les Algériens présents sur le territoire, donc les autochtones, sont soumis à un véritable arbitraire. Voilà. On parle une réaction mal comprise, un terme mal compris, et vous pouvez vous retrouver en prison avec des pénalités financières, voire carrément torturé pour un mot mal compris.
Alors, ça, c'est un code qui s'applique uniquement aux Algériens, aux vrais Algériens, on va dire, et pas aux Français.
D'Algérie.
D'accord. Donc, il y a en fait deux régimes de loi, alors, en quelque sorte.
Là, c'est ça. Deux régimes de loi, deux poids, deux mesures.
D'accord.
Qui, évidemment, contribuent à dégoupiller la grenade et à créer, donc, cette inégalité, créer une situation qui est de moins en moins tenable.
Et il est adopté quand, ce code de l'indigénat, à peu près ?
Si je veux être précise, 1881.
Ah oui, d'accord, assez rapidement, donc.
Complètement.
D'accord. Donc, on crée des citoyens de seconde zone qui ont des droits différents, qui sont soumis à des obligations plus fortes, etc. etc.
Exactement. Mmh. Alors, si j'avance un petit peu dans ma chronologie, tu m'autorises à le faire ?
Oui, tu es autorisée.
Je suis autorisée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc cette Première Guerre mondiale, l'impôt du sang payé par les troupes algériennes, des tirailleurs qui sont envoyés sur le front en France, obtiennent donc une nationalité. Pour autant, est-ce qu'ils ont envie d'accéder à cette nationalité ? Ben, pas tous. Mmh. Et puis, l'entre-deux-guerres va être marqué aussi par une montée du nationalisme algérien, d'une idéologie qui se répand considérablement ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la France, de l'idéal républicain, l'impuissance de Vichy face à l'Allemagne semble montrer que finalement, ces Français sont tout à fait faillibles et que les Algériens peuvent revendiquer leur indépendance. Donc, dès 1942, les leaders algériens demandent aux autorités françaises et alliées la préparation donc, d'un nouveau statut pour l'Algérie.
Ouais.
Ce comité français de libération nationale, constitué par le général de Gaulle, promet à ce moment-là, la citoyenneté pour tous, lorsque la future constituante française pourra justement prendre cette responsabilité d'attribuer la citoyenneté. Mais les nationalistes refusent purement et simplement cette proposition en disant qu'ils ne veulent pas être citoyens français, ils veulent être citoyens algériens.
D'accord.
Et donc se répand aussi cet adage que un peuple, un territoire, une langue, l'arabe, une religion, la religion musulmane.
Est-ce que c'est concrètement une demande d'indépendance à cette époque-là, alors ?
Elle commence, oui.
D'accord.
Elle n'est pas forcément
c'est une façon de formuler autrement une demande d'indépendance, et y ressemble sans le dire clairement.
Exactement. Et donc, très clairement, les Français ne prennent pas en compte cette demande. Ils soupçonnent effectivement qu'il y a des mouvements indépendantistes, mais ils ne perçoivent pas, ils n'ont pas conscience de la force de cette idée. Et évidemment, en minorant le problème, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne fait que grandir, grossir et prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, on arrive à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale se termine. Qu'en est-il, donc, en 1945 ? Eh bien, de nouvelles inégalités se mettent en place, puisque la population musulmane d'Algérie va petit à petit réclamer davantage de droits. Mmh. On décrète que ça va être, on promet que ce sera possible, mais on désapprouve aussi l'usage de la violence, évidemment, qui peut être utilisé contre la population dite indigène. Ouais. Les Françaises, en parallèle, accèdent au droit de vote.
Ouais,
mais
d'accord.
Pas les Français
femmes
d'Algérie.
Françaises, oui, voilà, ok, d'accord.
Donc mais on reste dans cette idée quand même que
les Français
fois,
d'Algérie, eux, non.
Rien.
Toujours pas voté, d'accord.
Les Françaises d'Algérie.
Les Françaises d'Algérie.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai, il faut un nom, d'accord. Deux poids, deux mesures, encore
deux
une fois.
Deux poids, deux mesures, hein,
comme d'habitude.
On peut retenir les choses comme ça. Hein. Donc les Français, plus encore que ceux d'Algérie, ne comprennent pas du tout les raisons donc, de ce conflit qui fomente. Mm-hmm. L'action armée démarre dès 1954, dès le 1er novembre 1954. La révolution algérienne devient une véritable guerre qui est intitulée « Les événements du côté français », qui est intitulée « Révolution du côté algérien ». Et donc cette guerre de libération est absolument incomprise du côté français.
Donc on date officiellement maintenant le début de la guerre d'Algérie à ce mois de novembre 1954, c'est ça ?
On appelle la Toussaint Rouge.
La Toussaint Rouge, d'accord. Très bien.
Ouais.
Et ça va donc durer jusqu'à
1962.
Alors on ne va pas faire un déroulé, comme tu l'as dit, hein, Geneviève, un déroulé complet, mais on va, nous, s'intéresser à des aspects très spécifiques. Est-ce que tu en as fini avec la présentation des causes, Geneviève ?
Est-ce que tout cela vous semble clair ?
Très clair,
pour moi,
tout
ouais.
à fait.
Merci.
Très bien, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Idir, figurez-vous, messieurs, dames.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à la guerre d'Algérie. Pas à la guerre d'Algérie dans son intégralité, mais plutôt certains aspects précis. On a vu les causes avec Geneviève précédemment. Et là, on va voir toute la question de la répression très violente de la guerre d'Algérie avec Jean-François. Mais avant, donc, l'annonce, nous avons écouté Idir, un morceau qui s'appelle Zuit Ruit, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas un champion. Jean-François, donc la deuxième thématique de cette émission, la répression, le plus fort à partir de 57, tu vas un peu nous raconter un petit peu en détail ce qui se passe.
Ouais, la répression qui va prendre la forme de la torture essentiellement, hein, ouais, ouais. Dont on va parler. Alors, il faut savoir déjà qu'en 1780, donc je remonte loin quand même, Louis XVI a mis fin à la torture dans le royaume de France.
Ah oui, d'accord, donc c'est devenu interdit à partir de 1780.
Voilà.
Ok.
Cependant, dans l'Empire colonial français, la torture s'enracine dans une longue durée, jusqu'à caractérisé dès le XIXe siècle le rapport des colonisés aux indigènes, se greffant sur un imaginaire identifiant quand même bien l'autre à un barbare.
Okay. D'accord.
L'indigène était un barbare, du coup. Et,
voilà, donc ça justifiait des traitements qui n'étaient pas acceptables sur les...
qui n'étaient pas acceptables en France, en fait.
En France, voilà, ouais. Sur le territoire français.
Et du coup, la torture, elle existe en Algérie avant 1954, avant la guerre. D'ailleurs, il y a un journaliste en 1950 qui en fait l'écho, Claude Bourdet. Il pose la question dans l'Observateur de savoir s'il y a une Gestapo française en Algérie.
Ouais, d'accord, dès 1950.
Dès 1950.
Wow. Donc autant dire qu'en 1950, ça résonne très fort dans l'esprit
bah des... Oui,
effectivement,
cinq ans après la guerre.
On sort de la guerre. On sort
au moment où on commence à savoir tout sur le comportement des Gestapo notamment. Ouais.
Et du coup, avec la guerre d'indépendance algérienne qui commence le 1er novembre 1954, ça va réactiver les clichés identitaires. D'autant plus qu'en impliquant les populations civiles, elle transformait tout Algérien en complice potentiel du Front de Libération Nationale qui est le parti moteur dans cette insurrection algérienne, et donc en suspect. L'armée recourut alors à la torture tant pour obtenir des renseignements que pour éliminer l'ennemi en instaurant un climat de terreur. C'était vraiment la volonté de l'armée, destinée ainsi à couper les activistes des masses, des autres Algériens. La torture s'intégrait donc dans un système idéologique. À la lutte révolutionnaire des rebelles répondait le combat contre-révolutionnaire d'officiers dont les plus connus quand même sont le colonel Trinquier, le capitaine Paulin Laléger, le colonel Marcel Bijard dont on va reparler et le général Jacques Massu dont on parlera aussi, qui croyaient mener depuis la guerre d'Indochine une croisade pour défendre la civilisation blanche. La torture constitue donc un moyen de poursuivre une guerre asymétrique. Donc entre un État fort et puis des rebelles qui sont disséminés sur le territoire, où l'adversaire se dérobe aux catégories classiques du droit de la guerre, se dissimulant dans la population. Dans l'esprit de l'armée, l'adversaire est ainsi assimilé à un terroriste. Et donc, il est exclu de la protection des lois de la guerre, notamment des conventions de Genève qui sont signées par la France.
D'accord, donc c'est vraiment cet argument-là, terroriste, qui permet de sortir les individus de la protection des droits internationaux, mais...
Dans la mentalité de l'armée, en tout cas.
Voilà, selon le point de vue de l'armée, et
oui,
d'en faire ce qu'on veut.
D'un point de vue du droit, je ne suis pas sûr que...
Ce n'est pas le cas.
Du droit, ce n'est pas possible, mais l'armée, elle interprète comme ça.
Et oui, et donc pour la France, le Front de Libération Nationale, qui a son bras armé qui s'appelle l'Armée de Libération Nationale, l'ALN, ne pouvait exister, agir et survivre qu'en symbiose avec le reste des Algériens. Lors de ces opérations, du coup, dans les villages comme en ville, l'armée française, en lutte contre l'indépendance, arrêtait par dizaines, par centaines ou plus encore des hommes et des femmes pour les contrôler, les ficher, les interroger, mais aussi pour faire peur et dissuader tout un chacun de s'engager. Les disparitions consécutives à des exécutions sommaires ou à des décès sous la torture participaient donc à un système de terreur. Surtout, et là ça va être très important, surtout la réglementation de la guerre offrait une couverture aux exécutions sommaires. C'est-à-dire que les lois de la République française, les lois politiques, vont permettre cette torture. En 1955, une instruction a ainsi préconisé de tirer sur tout suspect tentant de prendre la fuite.
Wow. Il
suffit de courir devant un militaire.
D'accord.
Être assassiné.
Oui, puis on peut tuer n'importe qui en disant il était en train de fuir.
Exactement.
Et voilà.
Les exécutions pouvaient donc être mises en scène ou maquillées et déclarées en gendarmerie par des procès-verbaux pour
des tentatives de fuite.
Abattus. D'ailleurs, il y a une expression qui est employée par les soldats pour parler de cela, c'était être de corvée de bois.
D'accord, voilà. Corvée de bois, ça veut dire on va...
On récupère un Algérien,
et on va le tuer.
Va chercher du bois dans la forêt.
Et on le tire dans le dos et on le tue.
Voilà.
D'accord.
Et dans ce contexte propice à des disparitions innombrables, la législation d'exception encadrant la guerre a donné naissance à ce que le droit international actuel qualifie de disparition forcée. Mmh. À l'origine, on trouve la loi des pouvoirs spéciaux. Là encore, une loi de la République française, de la 4e République. Mmh. Le 17 mars 1956, elle a permis au gouvernement socialiste de Guy Mollet, donc ce sont des socialistes quand même au pouvoir à ce moment-là qui ont fait de signer un décret autorisant la délégation des pouvoirs de police à l'armée en Algérie.
Ah, d'accord.
C'est ainsi qu'à Alger, Serge Barré, qui était le préfet en charge du maintien de l'ordre, a délégué ses pouvoirs au général Massu, chef de la 10e division parachutiste. Et là, les parachutistes vont intervenir et c'est eux qui ont beaucoup pratiqué la torture.
Donc à partir du moment où l'armée a tous les pouvoirs,
elle va réprimer,
se déchaîner à grande échelle quoi,
exactement.
Dans sa pratique, sa pratique de la torture notamment.
Et c'est là où on va avoir le début de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, qui va être extrêmement sévère pour la population algérienne d'Alger. Est marqué par le déploiement des parachutistes dans la ville. Alors les parachutistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quadriller la ville, faire des fouilles, arrêter à tout va. Ils vont faire des rafles même, torturer, exécuter. Et au point qu'on peut même parler de grande répression d'Alger pour les Algériens. Mmh. Puis progressivement, l'exercice légal des pouvoirs de police par les militaires a concerné l'ensemble de l'Algérie, tout le territoire algérien, pas seulement la ville d'Alger. L'armée a également été dotée de lieux de détention laissés à son entière responsabilité. Donc elle pouvait y faire tout ce qu'il voulait, qui vient d'une circulaire de Robert Lacoste, qui était le ministre résident. Donc là encore, c'est toujours la 4e République qui faisait ça, le 11 avril 1957. Ce sont ce qu'on appelle les centres de triage et de transit. Cet encadrement légal de la guerre est fondamental. Non seulement il prouve l'existence d'un véritable système, mais il engage pleinement la responsabilité du pouvoir politique, donc. Les archives nous montrent bien aujourd'hui, près de 60 ans après la fin des événements, entre guillemets, que la torture n'a cessé d'être pratiquée par certains militaires et couverte par les autorités civiles de la 4e puis de la 5e République, parce que ça ne s'est pas arrêté avec le passage en 58 à la 5e République. Le système de la torture est donc rationalisé. Il est ainsi gradué. Et là, je vais passer par des phases de torture, effectivement. Donc, attention aux oreilles sensibles. Alors, première étape, c'est les coups. Très classiques, ils permettent le plus souvent d'avoir des réponses rapides. Le problème, c'est qu'ils laissent des traces. Et, par exemple, des visages tuméfiés. Du coup, il n'est pas possible de laisser partir les prisonniers rapidement. Ils sont donc gardés, emprisonnés durant une quinzaine de jours, voire assassinés, c'est plus rapide. Plus radical et très utilisé durant la guerre d'Algérie, car elle a le mérite d'être moins visible, c'est l'usage de l'électricité et de la fameuse GGN.
D'accord, c'est pour des raisons donc de non-visibilité des dégâts.
Notamment, et pour faire parler, ça faisait bien parler aussi.
Ouais, évidemment.
Parce que, alors c'est quoi la GGN On place des électrodes sur les parties les plus sensibles du corps. Elles sont ensuite reliées à une génératrice que le tortionnaire actionne à la manivelle et on interroge la personne qui est interrogée.
D'accord.
On continue dans l'horreur avec ce qu'on appelle la pendaison. C'est là la victime est suspendue en l'air par les poignets jusqu'à ce que ses épaules et omoplates se disloquent. Voilà. Et enfin, ce que les survivants ont qualifié de plus difficile, c'est l'usage de l'eau dans les baignoires ou par des tuyaux qui permettait d'asphyxier les personnes interrogées. Un dernier de système de violence a été utilisé massivement sur les femmes. Là, il s'agit des viols. Et le viol est même devenu une vraie arme de guerre, car on réalise que les femmes violées, ça revient en fait à détruire ces femmes, parce qu'elles vont être exclues de la société algérienne ensuite. En effet, lorsqu'elles étaient violées, soit elles étaient condamnées à ne jamais pouvoir se marier, car elles ne sont plus vierges, soit elles étaient déjà mariées et se voyaient alors humiliées, voire répudiées. Exactement. Et pour revenir sur ces pratiques de torture, je vous propose d'écouter deux témoignages, ceux de Louisette Iguilariz et d'Abdelkader Aman, anciens membres du FLN tous les deux, et qui sont interrogés sur France 2 le 23 novembre 2000.
On écoute ça.
Pendant la guerre d'indépendance, Abdelkader Aman était membre des commandos urbains du FLN. Recherché par l'armée française, capturé en 61, il passe 18 jours ici, à la Villa Susini, siège du 3e régiment étranger parachutiste. Très vite, on l'amène dans ses caves. Au fond de celle-ci, une baignoire pleine d'eau souillée.
On était attachés, les mains derrière, et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligés de boire ça. Et c'était vraiment, c'était la torture la plus féroce.
Ici, c'était la salle de la GGN, engin électrique branché sur l'oreille, le sexe. Pour couvrir les cris, les militaires chantaient.
C'était une chanson où il était question de « À toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui me renverse, toi qui me bouleverse ». Et c'était les deux dernières phrases qu'il répétait encore. « Toi qui me renverse, toi qui me bouleverse, mon petit grain de fantaisie ».
La Villa Susini, El Billard, la Corniche, autant de lieux de torture. Alger, 40 ans plus tard, Louisette Iguilariz se souvient. Elle a 20 ans et sert d'agent de liaison au FLN quand elle est arrêtée. Blessée, plâtrée, pendant 2 mois allongée nue sur un lit, elle croupit dans ses immondices.
C'est pas normal. Quand on voit le purin et les excréments, on essaye de les éviter. Moi, j'étais dedans. On s'attendait à tout. De toute façon, on était préparé à tout. On était préparé aux insultes, aux injures, aux gifles, aux coups de poing, aux coups de pied. Mais là où ils ont essayé de forcer la dose, c'est là où j'ai espéré me suicider. Avec quels moyens ? Je n'avais pas les moyens.
Poker menteur.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9, nous parlons de la guerre d'Algérie et nous sommes dans un épisode, un passage très douloureux, nous parlons de la torture réalisée par l'armée française en Algérie. Jean-François, ce qu'on vient d'entendre, c'était donc...
C'était donc un témoignage de Louisette Aguilariz, ouais. et d'Adder Abderrahman Aman. Du coup, ce que vous avez compris, c'est que Louisette Aguilariz, sans le mentionner parce qu'elle ne peut pas le faire, elle a été violée par l'armée française constamment. C'est notamment grâce à la journaliste Florence Bauger qu'on a réussi à revenir sur tous ces épisodes et qui ont beaucoup fait parler en France dans les années 2000, enfin début des années 2000, en 2000 ouais. plus précisément. D'ailleurs, le général Massu et le général Paul Ossarès ont reconnu avoir usé de torture et avoir encouragé cette torture pendant la guerre d'Algérie. D'autres hommes aussi, ceux du contingent, les appelés d'Algérie, les conscrits, hein, vont aussi avoir recours à la torture et à ces méthodes qu'on appelait l'interrogatoire. Dans les sources écrites, les ordres, ça s'appelait interrogatoire pour dire la torture. Et notamment, on va écouter maintenant un témoignage, celui de Claude Join, qui est interviewé par BFM TV le 18 mars 2012.
C'est parti.
Claude Join a seulement 22 ans quand il arrive en Algérie. Comme près de 2 millions de Français, il fait alors son service militaire, une mission de pacification qui, au fil des mois, se transforme en cauchemar.
Mes copains, hein, avec qui j'avais été en Allemagne, avec qui je buvais une canette, une bière, avec qui je sortais, et subitement, j'en vois quelques-uns qui se laissent aller à être vraiment très violents au quotidien, quand on faisait nos patrouilles avec la population.
Dans ses petits carnets verts, il décrit les scènes de torture dont il est témoin et tente de comprendre comment de jeunes soldats français peuvent en venir à commettre de tels actes.
Le fait qu'on avait la trouille, la peur, le fait qu'on avait des copains qui étaient tués, parfois massacrés par la FLN, etc., etc. Cet ensemble-là faisait que les individus les plus faibles, eh bien, se vengeaient. Tapaient sur la rape parce que pour eux c'était un être inférieur et ça faisait des êtres qui se laissaient aller à l'abomination.
Devenu sociologue, Claude Join publie plusieurs livres sur la torture en Algérie. Aujourd'hui, à 77 ans, il se dit soulagé d'avoir accompli son devoir de mémoire.
Jean-François ?
Oui, alors on voit ici que la torture a été pratiquée, mais ce qui est aussi impressionnant, outre le fait que c'était encadré par finalement les lois républicaines, c'est que l'opinion publique française aussi arrivait à savoir ce qui se passait, en partie en tout cas, grâce à des articles par exemple de François Mauriac, paru dans l'Express en janvier 55, qui alerte déjà l'opinion publique. Ensuite, on a aussi en novembre 57, un comité qui va se former, c'est le comité Maurice Audin, de ce fameux mathématicien
français
capturé par l'armée française et assassiné. On a aussi un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle La question d'Henri Alleg, paru en janvier 1958, qui lui était un journaliste et qui a également été torturé par l'armée française, mais il a réussi à survivre et à donner des fiches à son avocat qui a pu faire publier son récit de captivité.
D'accord, très bien. On va faire une deuxième pause musicale. Nous allons écouter Noir Désir.
visages, des figures. Des visages, des figures, des figurants à effacer. Des faces A, des faces B. À pas feutrer, à traits des formes, altère, malentendu entre les tout, et c'est le fou qui était. Premier abord, homme à la mer. Hommage amer, un chaviret par-dessus bord, des airs, des grands airs, tout entier, auxquels peuvent s'ajouter des oiseaux mazoutés. J'ai douté des détails. Jamais du don des nus, j'ai douté des détails. Jamais du don des nus. Les corps des esprits me reviennent. Décors des scènes, des arènes hantées, hantées. Faites comme chez vous, restez. Si tout devient opaque, ma reine, j'ai bien aimé ta paire de claques et surtout ton dernier. Des visages, des figures, figurants effacés, des faces A, des faces B, des faces A, des faces B, des faces A, des faces B.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission de ce mois est consacrée à la guerre d'Algérie. Nous venons de parler de l'épisode extrêmement douloureux de la torture par l'armée française en Algérie. Nous venons d'écouter des visages, des figures, c'est ça Jean-François?
Exactement, de Noir Désir. Ouais.
Très bien. Nous allons passer dans cette dernière partie à la Suède, la question de ce qui reste dans la mémoire algérienne de cette guerre et aussi de la question un peu particulière, un peu spécifique des harkis. Geneviève, nous te laissons la parole.
Ok, donc on va de bien comprendre sur ta partie, Jeff, que finalement, il y a des lois, mais qui ne sont pas respectées à égalité pour tous les citoyens. Et que dire alors sur le statut très particulier de ces hommes qui ont fait pas forcément toujours le choix, mais en tout cas qui appartenait à une unité militaire qui était appelée Arka, qui est un mot arabe qui signifie donc mouvement. Donc on a appelé ensuite de façon plus large Harki, et donc ces hommes musulmans furent engagés ou enrôlés, voilà, en suivant des cas, pour servir comme ce qu'on appelle des supplétifs, c'est-à-dire donc des gens qui viennent aider l'armée française en Algérie. Donc ils étaient environ 60 000 à la fin de la guerre. Leur parcours demeure complètement ignoré parce qu'on a bien compris, les Français d'Afrique du Nord ont la nationalité française. Les autochtones, les indigènes étaient des citoyens de seconde zone. Mais
ouais,
ceux
voilà,
qui font le choix,
voilà,
selon ce code, mais ceux qui font le choix d'aider l'armée française, alors qui sont-ils? Des traîtres à la nation. Et donc la France est finalement très embarrassée par ces hommes. Il va y avoir au moment des accords d'Évian de véritables tractations pour savoir quel va être le sort réservé à ces hommes.
Ouais.
Le général de Gaulle parle du principe qu'ils sont algériens, donc ils restent en Algérie. Point.
Ah ouais.
Voilà, c'est très simple. En revanche, du côté donc du FLN, qui va mettre en place le gouvernement de cette jeune république algérienne, eh bien, pour eux, ce sont des traîtres.
Bah oui,
et
bien
donc,
sûr.
Comme tout traître qui doit être puni, mmh. Qui doit être puni sur la place publique de ce crime. Donc, la guerre finie, ces hommes eh bien, se retrouvent en fait la proie de revanche, de massacre véritable. Donc, ils vont être emprisonnés, ils vont être mis dans des camps,
ouais.
où ils sont eux aussi torturés. Hein. Donc, il y a une vraie violence aussi qui a du mal à être réfrénée. Et comme, en plus, cette jeune république a du mal à mettre en place un cadre légal rapidement, en fait, c'est complètement l'anarchie.
D'accord.
Donc, entre ceux qui vont torturer parce que, quelque part, ils règlent leur compte, entre voisins, hein, ça, on a pu l'observer aussi à la fin du régime de Vichy, hein. Entre ceux aussi qui s'en prennent aux autres pour pas qu'on leur rappelle trop aussi leur passé de soutien aux Français.
Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà, donc, c'est regarder qui torture.
Commode.
Exactement. Donc, quelque part, ces hommes, ils sont complètement laissés pour compte, en fait. Au moment donc de cette reconnaissance, le 3 juillet, il y a des Français, des administratifs notamment, qui vont alerter le ministre, qui vont alerter donc le gouvernement français sur le statut très particulier de ces hommes, et qui vont demander, qui vont prendre l'initiative d'essayer de les regrouper pour ceux qui sont manifestement en situation d'urgence. On va les regrouper dans des camps pour essayer de leur faire passer la frontière et de venir en métropole.
D'accord.
Sauf que le président intervient en disant non, mais ça, c'est pas les accords d'Évian, c'est pas ce qui a été convenu. Donc, on les renvoie en Algérie.
Impressionnant. Wow.
Et les fonctionnaires sont très clairement limogés et sanctionnés.
Wow.
Voilà.
On est en quelle année là, dans ce...
Ah ben, on est en 62.
62.
C'est-à-dire vraiment juste
de Gaulle.
Voilà, à la fin de ce conflit. Alors, je vais citer quelques témoignages aussi, donc qui ont été rapportés et écrits de la part de fonctionnaires. Donc, par exemple, des hommes qui sont enterrés vivants. Mmh. Donc là, on est au mois d'août 1962, avec la tête qui dépasse juste, recouverte de miel, de façon à porter ce visage aux abeilles, aux mouches, et de façon extrêmement humiliante sur la place publique. On les tue à la tâche aussi, c'est-à-dire qu'on les envoie dans des camps pour aller extraire de la bakélite juste à la frontière entre la Tunisie et... de façon à quelque part, les tuer de façon la plus absurde possible. Donc, il n'y aura aucun survivant de ce type de pratique. Alors, on peut se demander quand même, puisqu'il y a eu alarme de la part de certains fonctionnaires, pourquoi est-ce que les Français ne réagissent pas différemment ? Alors, pour cela, plusieurs raisons. Quatre raisons principalement qui viennent expliquer l'attitude du gouvernement français. D'abord, la volonté de parier sur le succès des accords d'Évian, parce que ça a été quand même un épisode dont le général de Gaulle souhaite retirer une forme de succès. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, la crainte de prolonger la guerre civile en laissant transférer en France des recrues potentielles de l'OAS, parce qu'il y a quand même aussi en France un climat très particulier. Et puis enfin, le refus de vouloir donner raison de reprendre les hostilités entre la France et l'Algérie.
Voilà. D'accord.
Mais la raison, la quatrième, donc la plus profonde, c'est que le général de Gaulle ne considérait tout simplement pas les harkis comme de vrais Français. On leur refuse ce statut. Et
on reste dans la pensée coloniale qui a jalonné l'histoire de l'occupation algérienne. Hein. Cette pensée coloniale de considérer les Algériens comme des hommes de seconde zone. Quoi.
Exactement, comme des citoyens sans droit, en quelque sorte. Donc les responsabilités majeures de cette tragédie incombent évidemment à l'Algérie, hein, c'est certain, mais aussi à la France, qui doit assumer de n'avoir su ni prévenir, ni empêcher. Et on peut dire que le sang répandu a transformé un compromis honorable en une honteuse compromission. Et cette coopération franco-algérienne, par définition, est viciée.
Ok, d'accord, très bien. Ok, donc ça, c'était pour la question des harkis. On va passer à la deuxième partie, donc la question de la mémoire de cette guerre.
En Algérie.
En Algérie, Jean-François.
Alors, en Algérie, cette guerre de révolution est toujours célébrée comme l'acte fondateur d'une nation, recouvrant ses droits de souveraineté par une guerre de libération. D'ailleurs, dans le discours politique algérien officiel, mais aussi dans une large partie de l'opinion algérienne, le souvenir de la guerre et d'une période coloniale traumatisante subsiste fortement. Ce que le leader indépendantiste Ferhat Abbas avait évoqué par l'expression « une nuit coloniale ». Ce souvenir s'est donc transmis dans les nouvelles générations. La mémoire de la guerre de libération est donc d'abord un traumatisme. Mais c'est ensuite une mémoire qui a été confisquée par le pouvoir. En effet, en Algérie, les détenteurs du pouvoir, issus du Front de Libération Nationale, du FLN, s'estiment être les seuls héritiers des martyrs algériens ayant mené la lutte pour l'indépendance algérienne. Ce culte dédié à la mémoire des héros est monopolisé par le pouvoir lors de commémorations dans divers lieux de mémoire, comme des musées, des mémorials,
etc. C'est quand même instrumentalisé pour justifier de rester au pouvoir éternellement, on peut attendre.
Tout à fait, ouais. Par exemple, l'État algérien, il ne parle pas d'autres leaders indépendantistes que Messali Hadj, par exemple, et de son mouvement national algérien. D'ailleurs, en 1962, il y a eu de gros conflits, il y a eu des assassinats d'autres indépendantistes qui n'étaient pas du FLN.
L'État
algérien ne parle pas non plus, d'ailleurs, des représailles cruelles contre les harkis, comme on vient d'en parler, qui étaient fidèles à la France. Ce n'est qu'à partir de 1988 que les mémoires des groupes comme des combattants non FLN ou comme les berbères se sont libérées. Néanmoins, l'histoire n'arrivait pas à se séculariser, devenant une rente mémorielle. Les chercheurs algériens restaient prisonniers de stratégies des différents pouvoirs politiques. Et selon l'historien Mohamed Harbi, le fait de ne pas avoir traité ces problèmes a fait le lit de l'islamisme. Et le conflit violent entre l'État algérien et l'islamiste, commencé en 1991, a donc aggravé le durcissement mémoriel, le repli sur les solidarités anciennes, religieuses, au détriment finalement de la connaissance d'un nationalisme algérien moderne. Il faut attendre les années 2000, et notamment le mouvement populaire de l'année 2019, donc très récemment, pour voir le retour dans l'espace public algérien de figures longtemps mises au secret par l'histoire officielle.
Ouais.
Il s'agit ici d'une revendication portée par la jeunesse, voulant renouer avec une mémoire s'approchant plus de la vérité historique, enfin.
D'accord.
Et non plus des dogmes imposés par l'État. Ainsi, les figures de Larbi Ben Midi et Ali Boumendjel, assassinés par l'armée française pendant la bataille d'Alger en 1957, et ont été brandis dans les manifestations par ces jeunes. Des changements sont donc apparus progressivement. Par exemple, maintenant, on a un aéroport à Tlemcen qui porte le nom de Messali Hadj. Il n'était pas du FLN, lui. Voilà. Les manuels scolaires changent aussi avec l'introduction de ces nouvelles figures. Enfin, on a des récits de vie, des autobiographies qui sont parus tout au long des années 2000 et qui apparaissent comme des instruments possibles d'élaboration collective du passé, tout en laissant s'exprimer une pluralité de points de vue, enfin, sur les plans politiques, culturels, linguistiques et religieux en Algérie.
Donc il reste à l'Algérie à aller au bout de ce processus de libération de la parole pour retrouver une vérité historique plus conforme à la réalité et non pas à un dogme qui sert à garder le pouvoir dans les mains d'une seule caste, une
petite
caste.
Depuis 1962, oui, tout à fait.
Depuis 1962. Ouais. Bien, je crois qu'on a fait le tour de cette approche un peu ciblée de la question de la guerre d'Algérie que nous désirions faire pour ce mois-ci. Geneviève, Jean-François, merci à vous.
Merci Patrick. Merci,
et
Patrick.
Chers auditeurs, au mois prochain.
Poker Menteur.
Avec Geneviève Huglot, dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouillot, dans le rôle de Patrick Trouillot.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.